Paul Arène, les trois orfèvres. Quand auprès de Saint-Siffrène, si complaisante et si jolie, deux mois entiers, un peu goulue car les paysans ne boudent guère au bon repas, il eut tour à tour savouré toutes les joies du mariage, la lune de miel déclinant, Père Tony se sentit devenir inquiet et le soupçon entra dans son âme. « Non, disait-il, en se mirant, idée qui jusque-là ne lui était pas venue, dans le bassin de pierre où sa bourrique buvait, non, non, jamais je ne pourrais croire que grossier comme je me vois et fine de partout comme elle est, Siffrène n'est jamais aimée que moi. » Et Bertigny admettait la chose, et le cas échéant n'en eût pas autrement voulu à Siffrène. Seulement, pour sa tranquillité, il aurait désiré être fixé et savoir une bonne fois si avant l'anneau d'argent, Siffrène oui ou non, s'était prêté à quelque autre et comment cet autre se nommait. C'est ainsi que l'homme marié, surtout, prend plaisir à gratter sa vie et devient son propre tourmenteur. Père Etony, un beau soir, ouvrit donc son âme à Siffrène. Eh Dieu, mon pauvre Perret, répondit-elle dans un éclat de rire, qui sous des lèvres plus charnues que la chair d'une pêche ouverte laisse avoir des dents plus brillantes que les cailloux au fond de l'eau, qui vous a mis ce follet en tête? N'est-ce point assez que de plein gré je sois venu habiter votre cahute, vous aimant bravement à la mesure de mon cœur, gouvernant le bétail tandis que vous peigniez au champ et tenant fumante la soupe que le soir nous mangeons ensemble, sans que vous vous inquiétiez d'apprendre si quelqu'un par hasard m'a trouvé jolie alors que je ne vous connaissais pas. Souvenez-vous, Peyret, vous me disiez, je te prends comme tu es, Siffrène, et je vous répondis, à moins qu'il n'y ait de votre faute, tel vous me prenez, Père Tony, et tel je vous resterai. Père Tony aurait dû se contenter de cette explication loyale. Il était têtu. Il insista. Pourquoi m'obliger à mentir ? Soupirait Siffrène, qui maintenant ne riait plus. « Ne mens pas, et souffle-moi simplement son nom, tout bas, si tu veux, dans l'oreille. Puisque dès à présent je pardonne, puisque je jure de tout oublier aussitôt après avoir entendu. » Alors Siffrène se décida. « Eh bien, fit-elle, c'est l'orfèvre. Oui, j'allais seul parfois au marché de la ville, et un jour l'orfèvre me donna. »« Quel orfèvre ? C'est qu'il y a plusieurs orfèvres, te rappelles-tu son nom, sa boutique ?»« Hélas non, Perret. Chez l'orfèvre, une jeunesse innocente ne regarde guère qu'aux bijoux. Pourtant, si vous teniez à savoir, je vais tout de suite vous donner le moyen de le reconnaître. » Et Siffrène, docilement, pour faire plaisir à son mari, quelque absurde que lui parussent ses désirs, alla chercher dans la huche à pain, qui servait aussi d'armoire, un petit coffret qu'elle ouvrit. On n'ignore pas qu'au temps des contes, ceci du reste n'est qu'un conte, les paysannes les plus pauvres pour aller à la messe ou à la danse se paraient d'autant de bijoux qu'aujourd'hui les plus riches dames. Siffrène en avait provision, qu'elle tenait par héritage de sa mère et de ses mères grands, autrefois belles et coquettes comme elle. Mais, laissant au fond du coffret ronde oreille, gorgerin et bague, elle y prit seulement un coulant de cou émaillé de fleurettes bleues et un Saint-Esprit au bec duquel une pendeloque en forme de poire tremblotait. Voilà ce que m'a donné l'orfèvre. C'est précisément jour de foire, mais il n'y a qu'à montrer les deux bijoux. Tout le monde vous dira de qui peut-être le travail. Et Père Tony, ayant endossé sa peau de bique, prit son bâton, sifflait son chien, descendit plus calme déjà vers la ville. La ville possédait deux orfèvres surtout célèbres, Maître Milon et Maître André, vieux tous les deux, mais gaillards encore, et connus dans le pays pour éblouir au miroir de leur dorure, comme on fait quand on chasse à l'alouette, les fillettes qui voulaient bien. Le premier auquel s'adressa Père Tony se trouva être Maître Milon, petit homme sec et malicieux, en train, pour le quart d'heure, de regarder à la loupe une vieille monnaie d'empereur romain, se demandant s'il vaudrait mieux la fondre à cause de la pureté du métal ou la mettre en réserve dans son médaillé pour la vendre très cher à quelque passionné numismate. Pendant que Père Tony expliquait son cas et lui montrait le coulant de coups, Maître Milon, qui se rappelait quand et comment il l'avait donné, regardait en dessous, non sans inquiétude. Mais, s'apercevant que Père Tony parlait de francœur et combien il était bonne bête, « Ami, lui dit-il, votre compte est bon. Ceci sort de chez Maître André. Votre femme n'est pas la seule qu'il est, et la pauvre ainsi mise à mal. Ce gredin est coutumier du fait, bien qu'il feigne la dévotion et qu'il fournisse l'archevêque. » Et sur le conseil de Maître Milon, Père Tony s'en alla trouver Maître André. Maître André, tout rouge avec des cheveux gris, s'essoufflait pour le quart d'heure sur la flamme de son chalumeau à ressouder tant bien que mal une bague de fiançailles. Père Tony expliqua de nouveau son cas. Maître André, bien qu'il reconnût son Saint-Esprit et se rappela parfaitement la jolie fille à qui il en avait fait guère fanage, s'écria les bras levés au ciel. « Comme chantez-vous là, mon brave, mais ce Saint-Esprit sort de chez Milon. La chose saute aux yeux, il n'y a qu'à voir le travail. Dire qu'il est prieur des confrères de l'Ascension et que l'on confie à la garde d'un pareil mécréant la robe de brocart, le manteau de perles et les joyaux de Notre-Dame. » Or, Père Tony s'en allait par les rues, perplexe et ne sachant auquel des deux croire, quand il aperçut la boutique d'un troisième orfèvre. C'était celle de Maître Honorat, jeune garçon tout nouvellement établi. « Hélas, répondit-il à Père Tony, c'est bien l'honneur que vous me faites, mais les bijoux ne sont pas de moi, je le regrette, croyez-moi. Le couleur du cou est de Milon, un vieux ladre qui bourre de plâtre, afin qu'elles paraissent peser plus lourd les parures qu'il donne aux filles. Et le Saint-Esprit de Maître André, qui plus ladre encore, s'en tire avec de leur faux. Alors vous croyez que tous les deux, voici la preuve. En effet, le Saint-Esprit, frotté sur la pierre noire, n'y laissa qu'une vague trace cuivrée qu'un peu d'acide fit disparaître, et percé d'une fine pointe d'acier, le coulant saupoudra le tablier de l'établi d'une pincée de poussière blanche. Quant à moi, conclut Honorat, quand je fais des présents aux filles, c'est du moins un poil loyer aller en vrai or. Relativement satisfait, Père Tony, qui avait des moutons à marchander, s'en alla faire un tour de foire. Après tout, songeait-il, orfèvre pour orfèvre, j'aime encore mieux des orfèvres vieux et laids comme Maître André et Maître Milon qu'un jeune comme Maître Honorat. Père Tony, on le voit, avait quelque philosophie. Cependant, Maître Honorat réfléchissait. Et après avoir dûment réfléchi, il conclut que la femme de ce bon rustre devait être, était à coup sûr, certaines villageoises fort éveillées, que souvent les jours de marché, il avait surprise le regardant avec un sensible intérêt à travers les chaînes d'or de sa vitrine. L'idée que Maître André, que Maître Milon lui avait offert des bijoux avant lui, la lui fit aussitôt paraître encore plus belle. Si j'allais lui faire visite, puisqu'elle est seule, et que ce brave Père Tony m'a indiqué le logis. Mais c'est grande foire aujourd'hui. Quel dommage d'avoir à garder la boutique. Enfin, n'y tenant plus, il prétexta d'une commande pressée, confia le comptoir à son commis, brida son bidet, prit le coffret cerclé de fer qu'il emportait d'ordinaire dans ses tournées, et le voilà trottant du côté de la montagne. Salut, dit-il, belle Cifrène. Votre mari, que je quitte tout à l'heure, a daigné m'apprendre une chose dont je fus grièvement fâché. Pourquoi, lorsque vous veniez à la ville, Acceptâtes-vous les bijoux de maître Milon et de maître André, tandis que vous n'aviez que mépris pour les miens ?» Cyphrène écoutait rougissante, tandis qu'Honora étalait sur l'appui-bas de la fenêtre le contenu de son coffret, constatant que toute chose s'arrange pour le mieux en ce monde, puisque le hasard fait ainsi servir la sottise des maris à la fortune des amoureux. Le soir, Père Tony, quand il revint, trouva la soupe prête et Cyphrène toute réjouie. Après qu'il eut conté son voyage, « À quelle heure, lui demanda Cyphrène, avez-vous quitté le troisième orfèvre ?»« 1 heure avant midi. » De lui, j'eusse volontiers été jaloux, mais il m'a juré ne point te connaître et que le coulant de coups de Dieu Saint-Esprit ne sortait de ses ateliers. Eh bien, Père Tony, sur mon âme, c'est bien le seul qui de la journée vous ait dit la vraie vérité. Et dans le petit coffre dont elle gardait la clé, à côté du coulant bourré de plâtre et du Saint-Esprit en or faux, Cyphrène, riant toujours, mais cette fois le cœur ému, déposa un de ces bracelets de forme antique dont, aux époques de barbarie, les paysannes provençales se servaient pour suspendre leur éventail alors qu'elles allaient au champ.